Alors, Joël Danet vous prie de l'excuser, il n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons de santé. Et donc, c'est France qui va vaillamment le représenter. Voilà.
Donc, Joël et moi avons travaillé donc, sur le film Sur la trace de Balint. On s'est posé la question, donc, par rapport à ce film-là, en fait, de la mise en scène, de la parole professionnelle donc, dans ce film. Et voilà. Et donc, le problème qui s'est posé pour Sur les traces de Balint, comme pour tous les films utilitaires, c'est de combiner au sein de la mise en scène la transmission d'un savoir et la dimension spectaculaire qui est intrinsèque au cinéma et qui positionne celui qui prend connaissance d'un film comme un spectateur. Le cinéma ne peut faire l'économie de cette dimension-là pour attirer l'attention de ce spectateur et en même temps, le film utilitaire doit interpeller, la vigilance de celui qui le voit, doit s'adresser à sa conscience de citoyen, de professionnel, d'élève, etc. Donc dans son film Sur les traces de Balint, Duvivier a cherché des procédés de mise en scène originaux pour tenter de résoudre cette équation. Le résultat est assez insolite. Profondément respectueux de la démarche scientifique dont il s'est inspiré, ses choix de réalisation pour la mettre en image l'inscrivent dans une modernité du cinéma qui consiste à repenser la structure narrative en interrogeant la frontière entre réel et fiction. Donc on va dire quelques mots sur le contexte de réalisation du film. C'est un projet qui a été initié par Éric Duvivier après la lecture du film de Michel Sapir qui s'appelle « La formation psychologique du médecin » et qui est paru en 72. Je pense qu'on peut noter là peut-être ce qu'on dit depuis ce matin, à savoir l'intérêt du réalisateur pour la relation soignant-soigné, puisque là, c'est vraiment une démarche personnelle d'avoir lu ce livre et d'avoir souhaité l'adapter sous forme de film. Donc, juste deux mots sur le docteur Michel Sapir. Donc, il commence à la fin des années 50 une analyse qui va lui permettre de se tourner définitivement vers la psychanalyse à la fin des années 60. Il est proche des idées de Michael Balint, et notamment sur la question donc, de la relation soignant-soigné. Et il consacre une large partie de son travail dans les années 70 et 80 à la formation des médecins et des personnels soignants. Et donc ce thème lui tenait beaucoup à cœur. C'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre sur la formation psychologique des patients. Pour dire un mot sur le groupe Balint, c'est donc des réunions de médecins généralistes en général, menées par un psychanalyste, et pendant lesquelles, justement, les médecins s'interrogeaient sur leur relation aux patients en intervenant et en expliquant différents cas qu'ils avaient pu avoir, qui avaient pu leur poser problème, devant lesquels ils s'étaient retrouvés sans réponse, justement, en ayant du mal à définir la part de psychologisation et la part de mal réel du patient. Donc, Éric Duvivier a identifié une matière filmique dans le texte du livre de Sapir qui consigne l'enregistrement de différents groupes Balint. Le docteur Sapir y a ajouté ses commentaires, et je le cite, « sur leurs avantages, leurs inconvénients, leurs dangers, leurs limites, etc. » Duvivier a respecté ce dispositif dans la majeure partie du film, d'où l'attribution de son écriture au docteur Sapir. L'article de Médecine Cinéma du dernier trimestre de 1976 précise « film du docteur Michel Sapir réalisé par Duvivier ». Donc là, on se retrouve face à la question de cinéma d'auteur, qui est l'auteur du film, etc., qu'on a vu ce matin. Donc le réalisateur avait vu dans le film déjà un découpage déjà constitué avec des dialogues, des commentaires et des séquences, même si il n'avait pas été écrit à l'origine pour être adapté. En ce qui concerne la construction du film, il est construit en deux parties. La première illustrant le groupe Balint discontinu, c'est-à-dire une semaine de travail intensive isolée dans l'année, et la seconde partie illustrant le petit groupe Balint, c'est-à-dire des séances suivies au fur et à mesure de l'année avec toujours les mêmes médecins qui se réunissent. La première partie du film est en trois phases. une introduction, tout d'abord, qui présente le scientifique Balint et qui fait intervenir sa femme Enide pour témoigner sur la jeunesse des groupes. Ensuite, des interviews et témoignages sur les expériences de médecins au sein de ces groupes et sur leurs bienfaits. Et enfin, des images avec voix off de morceaux choisis d'une semaine de travail d'un groupe Balint discontinu à Divonne, donc c'est lors de la semaine franco-suisse, qui était par ailleurs organisée par le docteur Sapir, ce qui n'est pas précisé dans le film. Cette adaptation est la première décision prise par le docteur Sapir et par Éric Duvivier avant de faire toute reconstitution du groupe Balint suivi. Et suite à cette première partie de tournage, il y a eu 2 ans d'interruption faute de financement. Dans cette première partie du film, donc, qui dure 12 minutes, les bases explicatives de ce qu'est un groupe Balint sont posées. Il s'agit d'une présentation, par le témoignage essentiellement et par le vécu. Le but est donc ici d'exprimer l'utilité de l'existence de ces groupes. À la fin de cette partie introductive intervient le générique et qui ouvre sur une seconde partie qui est une reconstitution de l'évolution d'un groupe Balint avec des acteurs connus pour la plupart et qui est construite en fait sur la condensation des textes inclus dans le livre de Michel Sapir et de textes enregistrés au-delà et donc qui sont des enregistrements de séances qui se déroulent entre 67 et 74. La question que nous nous sommes posée donc, pour ce travail est la suivante: comment Sur les traces de Balint transmet cinématographiquement une parole médicale à un public professionnel? Le but du film, affirmé par le docteur Sapir, est qu'il doit servir d'interrogation sur la fonction médicale et sur ce qu'on peut faire au niveau de la formation. Donc il s'agit évidemment de s'adresser à un public d'experts, puisque le public visé est médical et paramédical. Et le film devait constituer, pour le docteur Sapir, un important outil de recherche pour poursuivre ses investigations sur la relation soignant-soigné. La construction du film amène à penser que la volonté du réalisateur est de permettre à des spectateurs professionnels de s'intéresser aux propos tenus en les faisant intégrer, nous allons le voir, une narration dramatique. Donc dans un premier temps, on va exposer les moyens utilisés ici de mise en scène cinématographique d'une parole médicale. Ensuite, on s'intéressera à la figure du médecin dans le groupe Balint et à sa représentation dans le film. Et puis on conclura sur le contenu narratif. Donc je vais vous passer un court extrait pour vous montrer en gros comment le film est construit. Donc il y a toute la première partie qui sont des témoignages de médecins, des interviews.
Enfin, s'est trouvé en possession d'une série invraisemblable
pendant des années. Là, les choses doivent être prises en quelque sorte.
Voilà, ça c'est la dernière partie de la première partie du film avec la captation de la semaine franco-suisse à Divonne. Et puis à la 12e minute, voilà, on arrive sur un générique qui est un générique construit vraiment comme un film de fiction puisqu'on va voir qui présente les acteurs. Voilà.
Formation continue, formation discontinuée. Deux vases communicants, deux possibilités complémentaires laissées au choix et au possible de chacun. Mais tout est parti du groupe Balint, de ce petit groupe de médecins animé par un psychanalyste et centré sur la méthode Descartes. Nous allons essayer de vous présenter son évolution. Le scénario est bâti sur des documents et des références à des groupes différents au cours de séances enregistrées entre 1967 et 1974.
Entre les yeux du manteau d'Oslo et le manque d'yeux de la personne.
Non, j'ai l'impression que ce qui t'a embêté, c'est que ce soit aussi neutre.
Non, ce qui était embêtant, c'est qu'elle venait avec une demande précise, avec un ordre. Voilà le problème.
Oui, voilà le problème. Elle exprimait un ordre. Elle avait décidé. Et vous, en échange, vous lui donnez avant tout un ordre. Allais-je me soumettre? Est-ce que pour son bien, il valait mieux me soumettre? Ou au contraire, lui montrer qu'elle avait devant elle quelqu'un de fort?
Discuter, analyser toujours ou opposer parfois son pouvoir.
Donc, on voit bien la transition.
Un autre cas.
J'espère que vous avez vu la transition entre cette première partie qui est vraiment une partie du réel et la seconde partie qui est une reconstitution avec des acteurs dans un décor et filmé beaucoup, on va le voir, en plan d'ensemble. Donc en ce qui concerne le travail d'écriture, c'est un travail d'adaptation donc littéraire. Pour la reconstitution, les dialogues sont prononcés, sont une condensation en fait des dialogues enregistrés et publiés par Michel Sapir. Et d'autre part, la formation continue qui est reconstituée ici a été privilégiée par rapport à la formation discontinue pour des raisons pratiques, puisque ça aurait été compliqué de mettre en scène, ça aurait été beaucoup plus onéreux de mettre en scène autant de médecins qu'il y en avait à la semaine franco-suisse à Divonne. Et ce qui signifie donc que les dialogues de ce groupe Balins Continue sont en fait construits à la base de dialogues extraits de groupe Balins Discontinue. Donc l'adaptation a été faite pour que les choses soient logiques, mais à la base, le document initial n'est absolument pas le même que celui qui a été reconstitué au final. En ce qui concerne le travail des acteurs, il s'agit donc d'acteurs professionnels à la carrière déjà bien entamée. Donc Michael Lonsdale, entre autres, a déjà une vingtaine de films à son actif et on peut en compter une quarantaine pour George Wilson. Le choix de prendre des acteurs et non de vrais médecins est fait parce que, je cite Michel Sapir, il était difficile de faire jouer à des médecins leur propre rôle, surtout au cours de plusieurs années. Et parce que le groupe Balin fonctionne essentiellement sur le discours et que nous avons pu vérifier de façon très frappante en voyant des acteurs qui ne correspondaient pas physiquement aux médecins qu'ils jouaient ou qui jouaient même plusieurs médecins en un seul personnage, qu'ils pouvaient reproduire une atmosphère vécue dans les groupes uniquement par des paroles et ceci avec plus d'intensité que la réalité. La caméra qui est portée sur le groupe Balin, nous l'avons dit tout à l'heure, favorise le plan d'ensemble en règle générale. Pour donner une vision large de la situation et pour permettre au public professionnel d'assister à cette réunion finalement comme s'il y était. On trouve quand même au fur et à mesure de la narration des changements dans les valeurs de plan avec des plans plus resserrés ou des gros plans. L'intervention du référent scientifique que nous avons pu voir à la fin de cet extrait est en fait le scénariste du film, donc Michel Sapir, qui intervient comme commentateur du groupe Balin reconstitué. Et ce personnage intervient tout au long de la seconde partie pour analyser ce qui s'est dit ou produit au sein du groupe. Ces interventions permettent aux spectateurs de prendre du recul sur la parole prononcée et ces commentaires sont en fait ceux qui existent dans le livre du médecin et rédigés au fur et à mesure des 7 ans d'enregistrement. La mise en scène de cette parole professionnelle passe également par une dramatisation de la situation filmée. D'une part par les acteurs qui sont porteurs d'une parole vivante. Dans l'article que nous évoquions plus haut de la revue Médecine Cinéma, la revue donc déplore le manque d'ambition dans la réalisation. Je cite « Le film est un long métrage avec participation d'acteurs connus et des contraintes de temps, mais fallait-il pour autant tourner dans une pièce qui ne rend aucun contraste avec une caméra qui reste passive ?» Et pourtant, il est intéressant de remarquer qu'un film contemporain de Jean Eustache qui s'appelle Une sale histoire et qui est diffusé en 1977 présente de nombreux points de comparaison, mettant également en scène un homme qui raconte à des inconnus comment il est devenu voyeur dans les toilettes d'un café parisien. Le film d'Eustache se déroule également dans une pièce unique qui est meublée comme un salon bourgeois, un salon petit bourgeois et qui est bordée de bibliothèques garnies de livres et qui rappelle donc fortement le décor du film du Vivier. Et de plus, dans le film de Stache, la caméra adopte la même passivité qui vise en fait à faire oublier par le spectateur la reconstitution pour le mettre vis-à-vis de l'orateur qu'elle filme. À remarquer enfin que l'orateur chez Eustache est interprété par Michel Lonsdale, qui est également un des acteurs connus du film de Duvivier. Donc, on a les mêmes techniques employées au même moment, l'un dans un film de fiction pure et l'autre dans un film à vocation médicale et à vocation de transmission pour un public professionnel. Donc, la question de caméra passive et de mise en scène à moyens très limités est vraiment à mettre en suspens, puisque une seule histoire est aujourd'hui considérée comme un film d'une grande audace. Donc pourquoi pas cette mise en scène de Duvivier, pourquoi cette mise en scène ne le sera-t-elle pas également? D'autre part, les acteurs ont tout au long de cette reconstitution d'un groupe Baline une gestuelle qui évolue, pour la simple et bonne raison que au début du tournage, ils avaient cette pudeur que peuvent avoir les médecins quand ils se retrouvent au début sans se connaître dans les premières séances d'un petit groupe. Et puis, au fur et à mesure, les acteurs, tout comme les médecins dans la réalité, se sont mieux connus. Et le docteur Sapir dit que les choses se sont modifiées et que, par exemple, la manière de s'asseoir sur le divan a changé. Il y a eu un rapprochement des personnalités entre elles et donc que ça a créé beaucoup de spontanéité dans le jeu. Enfin, l'adresse à l'autre évolue. Au fur et à mesure des déroulés des séances, une intimité entre les participants se crée, donc dans la gestuelle, mais également dans la façon de se parler. On va passer au tutoiement, à l'interpellation, au fou rire. Et nettement ici, la narration apparaît. Il s'agit de groupes professionnels, certes, mais également d'un groupe qui évolue et dans lequel une proximité humaine s'installe au fil des heures régulières passées ensemble. En ce qui concerne maintenant la figure du médecin dans le groupe Balint, elle est explicitée par Duvivier au sein d'une typologie en fait, des personnages, une sorte de jeu de rôle qui existe dans ce film. Différents contours psychologiques sont éprouvés, les séances restituant les séances Balint, les séquences pardon, qui restituent les séances Balint mettent en jeu des individualités différentes, même si elles partagent une même pratique professionnelle. Le premier médecin qui s'exprime est sûr de lui, par exemple, il fait le récit de son expérience sans s'interrompre pour interroger ses confrères, sans attendre aucune réaction particulière de leur part. C'est donc un soliloque qui a simplement besoin d'un auditoire. Et un autre, au contraire, avance avec difficulté dans l'exposé de son cas, fait volontiers part de ses troubles et de ses inquiétudes, cherchant des informations et des opinions qui lui permettraient d'avancer avec plus de sérénité. La première affirmation du film est donc de révéler ou de rappeler la diversité des personnalités qui recouvrent la figure unique du médecin. Entre ces différents participants, des rapports de force existent. Et à mesure qu'ils progressent, le film met en évidence donc, ces rapports qui sont inhérents à tout groupe, avec le beau parleur qui voisine avec le timide. Ce rapport se manifeste dès la prise de parole. Qui se décide? Qui aura assez d'aplomb pour le faire? Le film montre même une médecin qui se laisse interrompre au moment où, avec embarras, elle commence à parler comme si elle n'avait pas été entendue. Ce plan, inutile d'un point de vue informatif, témoigne simplement de l'ambiance sourdement conflictuelle de la séance. Un autre médecin tend à rompre la logique de groupe en privilégiant l'animateur psychanalyste comme interlocuteur. Il s'adresse même directement à lui, selon les mots du rédacteur de médecine cinéma, dans un défoulement sexuel. On remarque donc qu'un petit théâtre se reconstitue à chaque séance, façonné par des individualités en jeu, évoluant à mesure qu'elles se fréquentent. Enfin, la présence donc d'un psychanalyste qui est finalement le leader du groupe, qui tient lieu donc de meneur de la discussion, influe sur le comportement de chacun. C'est lui le référent ultime qui est chargé d'articuler les échanges ou de les relancer. Quoi qu'il s'astreigne à la discrétion, selon le docteur Sapir, il est l'interlocuteur dans la reconstitution privilégiée du groupe. Enfin, quant au rapport entre le soignant et le soigné, le docteur Sapir, dans l'entretien donné à Médecine Cinéma, affirme que, de même que l'acteur se met dans la peau du médecin, le médecin, pendant une séance baline courante, s'identifie au patient. Pourtant, le film ne donne pas vraiment cette impression. Les médecins que les comédiens incarnent partent toujours de leur point de vue lorsqu'ils évoquent leur relation au malade qui se confie à eux. Ils décrivent les affects qu'ils éprouvent en sa présence, en même temps que l'observation qu'ils font de son cas. Et ils expliquent ensuite les décisions thérapeutiques qu'ils prennent selon cette observation, mais aussi, et c'est ce qu'ils avouent, selon le ressenti psychologique qu'ils éprouvent à son égard. Donc aucun d'eux ne se projette dans le patient, ne cherche réellement à adopter son point de vue. C'est en tout cas ce que la reconstitution nous montre, c'est ce qui apparaît dans cette reconstitution. Le film montre donc des médecins qui parlent d'eux-mêmes à travers le récit qu'ils font de leur pratique, laquelle engage une relation avec le malade. Celui-ci, en quelque sorte, constitue un tiers dans le dialogue de chaque médecin qu'il engage avec ses confrères et avec lui-même. C'est donc une démarche réflexive qui met finalement au jour une solitude, une certaine fragilité et un sentiment d'incertitude chez les différents personnages de médecins, même ceux qui paraissent les plus sûrs d'eux, les plus à même à maîtriser l'expression de leurs sentiments. Et de cette façon, le film tend à faire part d'une vulnérabilité partagée dans toute la profession. Les récits qui s'enchaînent, comme agencés exprès, constituent un échantillon de rapport du médecin à son patient. Nous observons qu'il se structure sur des pôles affectifs nettement distincts. D'une part, la version physique qu'exprime une des femmes médecins, vis-à-vis d'une de ses patientes obèses. Cette aversion physique fait pendant à une attirance érotique que subit un de ses confrères vis-à-vis d'une jeune patiente séductrice. Le médecin incarné par Michel Nonsdal, quant à lui, fait part de sa relation, la relation qui évolue de l'antipathie à la sympathie et d'une relation complexe à la difficulté de s'entendre, se mêle à un sourd attachement. Chaque médecin insiste donc sur les efforts pour surmonter son a priori, son préjugé, tout mouvement irraisonné susceptible d'interférer dans sa pratique. Il n'en reste pas moins que par son récit personnel et désinhibé, nous comprenons que ce même mouvement détermine en partie la relation thérapeutique. Le médecin incarné par Michel Nonsdal toujours juge qu'une cure est nécessaire à sa patiente et c'est en fait aussi le moyen de ne plus avoir affaire à elle pendant la durée de cette cure. Une cohérence se remarque d'un cas à l'autre à mesure que le film se poursuit. Chaque médecin tend à le psychologiser, à subordonner l'explication psychologique à la cause physique qui en serait en fait la somatisation. Certains médecins se reprochent même de ne pas avoir engagé assez tôt ce processus de psychologisation, empêchés non pas par leur souci de privilégier le soin du corps, mais par leur préjugé inconscient qui les a détournés d'une lecture psychologisante. C'est un travail sur soi, en fait, que le médecin doit aboutir, visant à maîtriser son préjugé ou son désir comme préalable aux soins. Sa participation aux séances Balint va dans ce sens puisqu'il lui permet de verbaliser ses sentiments. D'où la nécessité de les rendre régulières, de les inscrire dans le quotidien, diversifié de sa pratique. Bien sûr, le fait que ces séances soient menées par un psychanalyste induit une interprétation psychologisante de la part des patients. Le groupe montré dans le film décide même de se centrer sur des cas d'hystérie qui, de l'aveu du docteur Sapir, n'est pas inoffensif. Mais les médecins se prêtent volontiers au jeu, comme s'ils éprouvaient le besoin d'aller au-delà de leur diagnostic, en s'inscrivant dans la relation qu'il engage au patient, le renvoyant à un « connais-toi toi-même » préalable qu'ils peinaient à assumer dans la solitude de leur pratique. Donc pour conclure, on a tenté d'évoquer dans notre intervention la restitution d'une parole professionnelle par sa mise en scène et sa dramatisation. La narration cinématographique est en fait ici empêchée au niveau des cas, mais elle aboutit sur le plan du groupe lui-même. On remarque que les cas évoqués par les médecins ne sont pas l'intérêt ici. On n'en pousse aucun jusqu'au bout, puisque l'aboutissement de la séquence n'est pas la résolution justement des cas, mais l'intervention du référent scientifique sur la parole employée pour parler de ces cas. L'intention de la séquence est donc le déroulement d'un groupe Balint avec tout ce qu'il comporte d'évolution comportementaux de ses membres. La narration est en fait le groupe Balint lui-même, personnalité, rapport de force, parole, posture, regard et allusion.
Bien, merci. Donc, merci France et puis merci Joël, qu'on salue au passage, qui est peut-être encore un petit peu allongé, je ne sais pas. Donc, merci pour ce très intéressant exposé sur un film encore très différent, qui pose un certain nombre de questions. Moi, j'en ai trois. Est-ce que je m'attribue la parole et ensuite je vous la redonne ou... Bon. Alors, trois de trois séries différentes. J'ai été frappé par ce que tu as dit sur le fait qu'on essaie d'intéresser, intéresser le public aux propos tenus par la dramatisation. Donc, je pense qu'il y a deux problèmes que vous faites surgir qui sont très intéressants. D'abord, on a parlé tout au long de la journée du public professionnel auquel on s'adressait, auquel ces films s'adressent. Et je pense qu'au terme de la journée, on a tous senti l'insuffisance de cette catégorisation, puisqu'en fait, on n'a pas un public professionnel, mais des publics professionnels. À l'intérieur, on a différents types de professionnels. On a des professionnels qui sont des pontes ou des grands patrons, comme tu l'as dit. On a des personnes qui, sans être des pontes, ont de l'expérience. On a aussi des néophytes. Et puis, on a des apprentis. Et je pense que, donc, du coup, ce serait intéressant de retravailler un petit peu toutes nos réflexions et les films sur lesquels on travaille en vertu de ça, sachant que le dispositif de la séance, avec probablement des publics qui sont toujours mêlés et qui expliquerait donc sans doute une certaine hybridité des films que nous avons à voir, puisqu'ils essayent en quelque sorte d'attirer l'attention de divers types de publics avec divers types de connaissances médicales et ou de positions sociales. Bon. Second type de problème qui me semble assez intéressant, c'est le dispositif scénique. On a vu très rapidement, mais j'avais l'impression que dans ce qui était tourné à Divonne, on avait le médecin qui était au centre. Mm-hmm. Et là, dans ce que tu nous as montré, pas plus du tout.
Parce que
mais attends, je pose toutes les questions. Et donc, bon, ça pose quand même aussi la question de la transition de ce que tu appelles la réalité et puis la fiction. Est-ce que ça a été quelque chose de réfléchi? Est-ce que c'est dans le scénario? Et donc, pour aller encore au-delà de ça, sur toujours cette question du passage entre... si ce n'est réalité, en tout cas, expérience vécue et puis expérience représentée, puisqu'on a fait appel à des acteurs qui sont loin d'être des amateurs et qui ont même une certaine audience publique et une certaine légitimité, crédibilité professionnelle, est-ce qu'ils se sont emparés de la situation et quelle est la partie d'improvisation par rapport à un scénario, s'il y a scénario?
Alors, voilà. Donc, la première chose pour le médecin à Divonne, donc c'est encore une fois deux formes de groupes différentes.
Oui, ouais,
donc c'est vrai que dans la semaine franco-suisse, déjà il y a un public beaucoup beaucoup plus nombreux. Mm-hmm. C'est pour ça que les médecins qui prennent, enfin il y a vraiment une prise de parole un peu moins spontanée forcément que dans les petits groupes où la discussion est plus fluide, s'engage mieux, etc. Là il y a déjà un micro, il faut se passer la parole et encore une fois le public est beaucoup plus large. Donc je pense que c'est un peu ce qui fait la différence. Enfin, le dispositif avec le médecin au cœur, c'est pour moi vraiment lié, c'est contextuel, quoi. C'est vraiment lié à la...
Lié au type de maladie.
Voilà, exactement. Et puis, la deuxième question, c'était les acteurs et l'improvisation. Alors, je pense que...
Est-ce qu'il y a un scénario, déjà ?
Le scénario, il y a un scénario absolument, puisque c'est, encore une fois, une adaptation littéraire. Et c'est ce que M. Duvivier expliquait ce matin... C'est le scénario par le dialogue. Et je pense que là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait des dialogues qui venaient d'enregistrement du docteur Sapir. Et toute la reconstitution a été bâtie sur la condensation de ces dialogues-là. Mm-hmm. Donc, avant scénario, il y a eu dialogue. Les dialogues font le scénario, si tu veux. Donc, je pense qu'après, c'est ce qu'explique le Michel Sapir dans son entretien d'ailleurs, ils ont vraiment posé là les acteurs avec des dialogues qu'ils connaissent, etc. Et on leur a vraiment demandé de se mettre en situation. De là, c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette évolution dans le jeu qui est allée de la timidité à la spontanéité, parce que c'est des rôles qu'ils n'avaient absolument pas l'habitude d'endosser. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question.
Tu penses qu'il y a eu des possibilités, qu'il y a eu plusieurs prises de certaines scènes? C'est des acteurs.
Oui, c'est des acteurs.
Si un acteur dit non, c'est pas ça, la prise s'arrête. Enfin bref, donc c'est à creuser.
Ouais,
donc,
ouais,
là, il y a du coup, quand, c'est très intéressant,
ouais.
Mais du coup...
Oui, oui, à savoir, oui, à voir.
Des questions? Oui, Thierry?
Oui, enfin, c'est pas une question, c'est par rapport à ce film qui est dans la continuité de ce dont on a parlé, c'est-à-dire du caractère profondément expérimental de ce cinéma. C'est-à-dire que le dispositif de ce film-là, comme tu l'as fait remarquer, France, à l'évidence, a une influence sur Eustache pour Une sale histoire, qui est un de ses grands films. Eustache, qui est un cinéaste immense, par ailleurs. Ça pose vraiment la question de la circulation de ces films. Alors bon, là, on voit le maillon entre le film de Duvivier et le film d'Eustache, c'est Lonsdale, a priori, puisque Lonsdale est dans la même situation à raconter des histoires qui sont plus ou moins obscènes, je dirais, parce qu'il y a quelque part de l'obscénité dans ce film-là, puisqu'il y a... On tourne autour du secret médical, dans un film comme celui-là. Et c'est bien pour cela qu'on ne peut pas montrer des médecins racontant aussi crûment les situations qui sont exprimées par des acteurs dans le film de Duvivier. Mais ça pose vraiment la question de la circulation de ces films. On a vu que le film... réalisé avec Michaud, avait une influence sur Clouzot. On constate qu'à l'évidence, ce film-là a eu une influence, de quelle manière, je ne sais pas, mais sur Eustache. Et il y a probablement beaucoup plus de cas qu'on ne croit dans l'œuvre de Duvivier. Et donc, ça va dans le sens également de ce que je disais ce matin, c'est qu'on a exclu un peu arbitrairement, à une certaine époque, le cinéma médical et scientifique du champ de la cinéphilie classique, et nous avons la démonstration à deux reprises dans la journée que c'est une erreur fondamentale, parce que ça permet souvent d'expliquer comment les idées sont venues, comment les dispositifs se sont mis en place, que les choses n'arrivent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, qu'il y a une circulation des pratiques et des connaissances. Voilà. Et donc c'était très bien de souligner l'importance de ce film-là, qui, à mon avis, est majeur. Derrière son aspect un peu frustre comme ça, il y a de la profondeur, il y a de l'avant-garde et de l'expérimentation.
Je vais peut-être juste rajouter un mot par rapport à ça. Je pense que ce qu'on touche là, c'est quelque chose qu'on peut même poursuivre encore plus loin, dans le sens où il faudra creuser, mais on a presque l'impression qu'à des moments, ce cinéma-là, puisque précisément il est un peu en marge, il est un peu en off, etc., c'est comme un terrain de jeu, d'expérimentation, où on fait des choses, etc. Et là aussi, tu as tracé plein de parallèles, mais si on regarde les années 30 d'un Ruttmann, du film industriel, etc., c'est autant de la commande, mais c'est autant un champ de liberté, où finalement les contraintes d'une diffusion large de divertissement ne s'imposent pas, et du coup où on a d'une part un financement et d'autre part la possibilité d'être auteur. Et donc c'est pas qu'il y a de temps en temps un lien, mais il y a même à s'interroger si c'est pas toujours de manière générale évidente dans chaque film, mais de temps en temps vraiment des espaces d'expérimentation fortes.
Je citerai un exemple qui n'est pas, médical, c'est L'âge d'or de Buñuel. La première scène de L'âge d'or de Buñuel, on a beaucoup glosé sur la première scène avec les scorpions, etc. etc. Il a fallu quand même pratiquement 50 ans, 60 ans, pour s'apercevoir que cette première scène, bien évidemment, Buñuel ne l'avait pas tournée, qui s'était contenté de reprendre un film qui avait été tourné en 1912-1913 par la société Éclair, par un certain Bayard, qui s'appelait Le Scorpion languedocien. Et il l'avait mis comme ça, c'était un collage, comme une pratique surréaliste extrêmement classique. Le film lui avait paru extrêmement bizarre, mais ça n'a pas empêché un nombre incalculable de cinéphiles de gloser sur ce qu'avait voulu dire Buñuel dans ce film, alors qu'il avait été réalisé par un praticien presque lambda de la cinématographie documentaire en 1910. Il a fallu qu'on le retrouve. Même chose d'ailles pour le Nosferatu de Murnau, où on s'est toujours posé des questions sur les polypes qui circulent comme ça, se promènent dans le film, et ce n'est qu'il y a quelques années qu'on a redécouvert dans un film de la Ufa, un documentaire de la Ufa, les séquences en question qui ont été injecté dans le film. Donc il y a plein de liens, on ne les soupçonne même pas, parce que justement cette production, ben, voilà, on retrouve les films de Duvivier, donc on peut les revoir. Pendant beaucoup de temps, ben, on n'a pas pu les voir, et il y en a des dizaines de milliers à Auxerre qui sont probablement aussi intéressants.
Un petit peu balourde, mais quand on diffusait donc ce film à des médecins, qu'est-ce qu'on essayait de leur communiquer, quel était le message? C'est réunissez-vous, parlez ensemble.
C'est un film de tentative d'adhésion à ce principe de groupe Baline. Enfin, c'est vraiment pour faire connaître ces groupes. Parce que le film est de 76. Et les groupes Balint existaient, enfin étaient apparus en France depuis, je dirais, une quinzaine d'années, grand maximum. Et je pense pas que c'était vraiment très répandu à ce moment-là. Donc c'est vraiment un film qui était censé, voilà, juste faire connaître ces groupes-là, leur contexte d'organisation.
Groupe Balint. Voilà, c'est se retrouver entre nous pour reconstruire la médecine. C'est un peu l'idée hein, des groupes Balint.
Et je crois que ce qui s'est passé aussi quelques années avant ce film, bah, au moment du travail de Michel Zapir, en fait, il y avait énormément de questionnements justement des soignants qui n'étaient pas exprimés. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, c'est expliqué au début du film, en fait, des enquêtes qui ont été faites sur les gros moments d'anxiété dans la carrière d'un médecin. Et je pense que le but aussi de ce film, effectivement, c'est du prosélytisme, mais c'est pour répondre à une demande non formulée, un peu inconsciente, des médecins qui avait été mise en lumière par différentes enquêtes, etc. À ce moment-là, je pense.
Je pense que le moment, il correspond aussi à la gestion post-68 dans l'identité professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas... Là, par exemple, ça serait intéressant, tu confirmes ou tu infirmes, mais c'est des médecins généralistes.
Oui, c'est des médecins généralistes, oui.
Donc, c'est précisément le milieu qui, en post-68, donc au début des années 70, s'interroge sur nous sommes les médecins de quoi, pour qui, où, la cité, la ville, etc. C'est pas une médecine de spécialiste, là. C'est vraiment une quête identitaire sur soi, avec cette remise en question que les médecins ont vécu comme le reste de la société de 68, c'est-à-dire l'autorité, le regard sur soi-même, une autoréflexivité. Les groupes de Balint font pleinement partie de ça, c'est une des techniques, mais il y a dans les mêmes années, par exemple, une thèse soutenue à Lyon en médecine sous forme de 3 pellicules de films qui relatent des discussions entre des médecins sur ce que ça devrait être la médecine. C'est pas un groupe Balint, mais le dispositif, c'est un groupe de discussion est très proche. Alors c'est filmé très différent. Par contre, du coup, là, c'est intéressant de voir que ça intègre aussi une production qui est quand même une production de commande. C'est-à-dire, ça va jusque là. Ça reste pas une contre-culture de quelques étudiants particulièrement concernés qui font leur thèse de manière complètement innovante ou iconoclaste, comme on veut. Mais que ça va jusqu'à poser dans des institutions qui sont finalement assez officielles, c'est-à-dire avec le soutien de l'industrie pharmaceutique, la question c'est quoi la médecine générale aujourd'hui, c'est quoi être médecin, et on le retrouve dans le questionnement du médecin dans René, par exemple. C'est absolument passionnant à voir parce que je pense que ça correspond vraiment à un moment de la profession aussi. Et j'ajouterais, et ça c'est mon côté enseignant par rapport à ça, évidemment c'est des témoignages et des documents qui sont superbes pour retravailler ces questions avec les étudiants aujourd'hui sur ça veut dire quoi être médecin.